Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
Je pensais que j'allais me remettre, quoi, comme j'avais réussi à le faire la fois d'avant. Et en fait, c'était lorsqu'on est rentré en Suisse, on a fini notre séjour à La Réunion, et il a fallu commencer à repartir courir, à commencer à se remettre et tout, et puis quelque chose était cassé, quoi. J'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie de partir courir, plus envie de faire du sport, et progressivement ça s'est venu comme ça s'est installé un peu de manière sournoise. Je l'ai pas vraiment vu arriver, et puis je me suis retrouvé au mois de mars, avril, en dépression, au fond de mon lit, à plus vouloir bouger, à plus vouloir rien faire, et c'en était trop.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode exceptionnel David Hauss, un invité très rare en podcast. Ancien triathlète de haut niveau, remarqué notamment pour sa 4e place lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, David s'est ensuite consacré plus particulièrement au trail, où il a rapidement obtenu des résultats remarqués. Sa carrière en trail a connu des moments plus délicats, notamment marqués par une erreur de balisage lors de la Diagonale des Fous 2019 qui l'a mis en difficulté. Il se présente sur cette même Diagonale des Fous 3 ans plus tard, après une intense préparation et avec d'importantes ambitions. Une édition malheureusement marquée à nouveau par un problème de balisage et son abandon dans un état de profonde colère dont il ne se remettra pas. Cette désillusion a entraîné chez David une profonde dépression, l'amenant à remettre notamment en question sa relation à la compétition. Après avoir progressivement sombré, David a pris la décision de se retirer du sport de haut niveau. Après une année délicate, il a réussi à retrouver peu à peu la flamme avant d'annoncer récemment son retour progressif à la compétition, avec des ambitions et des objectifs personnels repensés. Son témoignage, riche de sincérité, explore ses luttes internes et son chemin vers la guérison et l'acceptation. Je tiens à remercier David pour sa confiance à venir évoquer ce sujet sans tabou et sans filtre dans Course Épique. Mais je ne vous en dis pas plus. David va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Diagonale de Flou. Salut David.
Salut Guillaume.
Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel et 142e épisode de Course Épique. Ça commence à faire un petit moment. Comment ça va?
Ouais, ça va super. Écoute, j'arrive juste de courir. Je suis juste dans les temps. Donc, belle journée. Bon début de journée. Tout va bien.
Un épisode qui s'annonce sous les meilleurs cieux. David, on enregistre cet épisode le 11 avril. Et le 11 avril, figure-toi, c'est la date d'anniversaire de Nicolas Karabatic, le handballeur français éminemment célèbre, qui célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Lui, il a des petits rituels avant ses matchs, je vais les partager avec toi. Un jour de match, il va prendre une douche à l'hôtel ou chez lui, ce qui est plutôt rassurant. Après, il enfile son slip fétiche, le même toute la saison, peu importe la marque. Après, quand ses partenaires descendent du bus et attrapent leur sac côté trottoir, lui fait toujours le tour pour récupérer le sien. Avant de pénétrer dans la salle, Nicolas il prépare ses chaussures avec minutie, il colle ses bandes élastiques avant d'enfiler sa tenue parmi les derniers. Il s'échauffe toujours sur la même partie du terrain près du poteau gauche. Et pendant la Marseillaise, quand c'est l'équipe de France, il adresse un clin d'œil à la caméra pour sa maman. Tout ça avant de se plonger dans le match. Est-ce que toi, tu as un rituel d'avant-course qui est aussi sophistiqué que le sien?
C'est vrai que ça en fait beaucoup, mais non, absolument pas. J'ai pas du tout de rituel d'avant-course. Je me lève quand je me lève en fonction du départ de la course. Et puis, je m'organise.
Pas de gris-gris, pas de bonheur?
Non, vraiment pas. Et puis, depuis le début, j'en ai jamais eu. Je suis pas, suis pas superstitieux ou quoi que ce soit, et non, non.
David, on va commencer avec une question traditionnelle d'ouverture de podcast. Je vais te faire un peu travailler, je vais te demander de te présenter, mais il y a une contrainte. Tu ne peux pas me parler de sport, donc qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de toi qui ne concerne pas à ce stade le sport dont on aura l'occasion de parler bien plus tard. Tu as le droit à tout le reste, c'est carte blanche.
Bah écoutez, moi je suis David Doss, j'ai 40 ans comme Nicolas cette année, on est de 84 tous les deux, je l'apprends. J'habite en Suisse, j'ai trois petits garçons, je suis marié à Mélanie depuis 12 ans et je suis originaire de l'île de La Réunion et ça fait maintenant un petit bout de temps que je suis en Suisse. Et puis,
une passion secrète.
Passion secrète, j'ai plusieurs passions. Je fais du pain le matin, le samedi matin, il m'arrive à aller faire du pain. C'est une chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais plus petit. Lorsque je suis venu habiter en métropole, j'étais dans le sud de la France et il y avait ces villages un petit peu provençaux avec le boulanger. Et je me rappelle, mon entraîneur habitait à l'époque à Bagnoles-en-Forêt et le boulanger de l'époque était parti à la retraite et je m'étais posé la question déjà, je devais avoir 20 ans, si j'allais pas un jour prendre sa place. Et voilà, et ça fait quelques mois maintenant que j'ai repris le fourneau ici en Suisse parce que le boulanger était aussi parti à la retraite. Donc j'ai dit ok, allez, je veux bien tenter le coup. J'ai appris comme ça un peu sur le tas, mais ça c'est des choses que j'aime bien faire. J'aime bien lire aussi, j'aime bien partir avec les enfants dans la nature, avec ma famille, voilà, j'ai plein de petites choses. Ouais.
Il reste pas beaucoup de temps quand on met du sport à haute intensité dans tout ça.
Si on doit pas en parler à la
exactement.
Présentation, c'est vrai que
ça laisse pas mal de choses. Parfois les invités sont un peu démunis, mais il y a plein de choses à partager avec nous. David, on va remonter le temps ensemble. Quel souvenir tu gardes de ton enfance, donc à La Réunion, de quoi était fait ton quotidien? C'était quoi tes plaisirs au jour le jour?
Effectivement, mon premier souvenir, je l'ai eu à La Réunion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas né à La Réunion. Je suis arrivé là-bas, j'avais un an. Donc, effectivement, mes premiers souvenirs remontent à ce moment-là, enfin un peu plus tard, effectivement. Mais je me rappelle avoir une enfance très très heureuse, très portée sur la mer. J'avais mon papa, ma maman qui faisait du windsurf à l'époque, c'est pour ça qu'ils sont partis là-bas. Enfin, en l'occurrence, mon papa, il en faisait beaucoup. Et un jour, il est rentré, on a dit allez, on part habiter en métropole. C'était en 85, on avait un an avec ma soeur jumelle. Et nous, on a grandi, dans cet univers-là. Je me rappelle passer beaucoup de temps sur les plages, très vanté parce qu'on attendait qu'ils finissent les sessions et avec tous les autres copains. Et puis on a formé un noyau comme ça. Et donc, assez rapidement, j'ai été tourné vers la mer. J'ai commencé le surf assez tôt, le skate et puis forcément la natation parce qu'on voulait avoir un minimum de sécurité, être à l'aise dans l'eau. Et puis on a commencé, avec ma sœur, à nager dès l'âge de 5-6 ans, je crois. Et puis finalement, c'est ce qui m'a plu, ce type d'effort. J'ai continué les deux, mais un petit peu plus tard, j'ai bifurqué sur la natation, l'esprit de compète et tout, c'est ce qui me plaisait, le dépassement de soi. Et puis voilà, donc beaucoup de soleil, beaucoup de mer et puis des bons moments.
Ouais. Pas malheureux, j'ai l'impression, David.
Ouais. Non,
ça va l'air bien, ton enfance. Comment tu as trouvé ton chemin là jusqu'au triathlon? On a compris donc que la natation elle a trouvé sa place assez vite. Comment tout le reste ensuite s'est imbriqué? De quelle façon tu as le souvenir d'avoir découvert cette discipline-là?
À l'époque, le triathlon était une discipline vraiment neuve. On était au début des années 90. Moi, j'avais 6 ans, 7 ans. Et là encore, j'avais mon papa qui avait des petits problèmes au dos et qui voulait changer un peu d'activité. Le jour, on en a reparlé l'autre fois. Et à la fin d'une session, il voit des mecs passer en courant à Saint-Leu, là-bas. C'était sur la côte ouest de l'île. Des mecs partir en courant pieds nus et tout. Il se dit, mais c'est que ça, quoi. Et il va voir un pote à lui qui participait à cette course. Il lui a dit, là, je suis en train de rentrer, il me reste 20 bornes à courir et tout, c'est une discipline de ouf et tout. Et lui, il est tombé un peu fou de ça. Et il s'est mis à pratiquer le triathlon début des années 90. C'était un des pionniers là-bas. Il y avait des épreuves où on faisait venir les internationaux, des athlètes de renom. Et puis, on a commencé à les accueillir, à partager avec eux. Et puis, voilà, j'ai grandi naturellement, je faisais de la natation et puis je voulais faire comme eux, quoi. Je voulais courir, je voulais aussi rouler, je m'amusais à jouer au triathlon dans ma rue chez moi à la Saline là-bas avec mes copains que j'invitais à la maison. On jouait au triathlon, on nageait dans la piscine, on prenait le vélo, on faisait des allers-retours et après on courait. Et donc, ça a été assez naturel. Et puis, j'ai grandi, j'ai commencé à faire les crosses au collège. Je les ai gagnées un par un, 12 sur 12. Et là, on s'est dit, waouh, il y a quelque chose. J'ai envie de percer, j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Et assez tôt, ouais, 11 ans, 12 ans, je me suis dit, un jour, je veux tenter ma chance, je veux partir en métropole. Assez tôt, hein. Je me suis dit, allez, va pas falloir rester ici à La Réunion, va falloir aller voir du pays, aller tenter le coup. Et puis, quand j'ai eu l'âge, un peu plus tard, donc là j'ai commencé un peu plus sérieusement à faire du triathlon, à m'entraîner plus régulièrement, bien que la natation restait ma discipline de prédilection. Et voilà, et puis à 14-15 ans, je suis parti faire des championnats de France sans trop savoir ce qui m'attendait. Je fais cinquième en minime, je crois, et puis là je me fais repérer par un pôle en métropole, et puis j'ai dit allez, let's go, on y va, on tente le coup. J'avais 14-15 ans.
C'était à Montluçon, si j'ai pas de bêtises, le pôle espoir de Montluçon.
Ouais, exactement.
Est-ce que ça a été compliqué pour toi de faire ce saut, enfin de quitter les tiens et puis de venir en métropole, ou est-ce que tu étais tellement porté par ton envie d'aller au bout, d'aller te pousser, d'aller explorer la performance aussi loin que possible, c'était suffisant pour que tu partes sans regarder derrière toi?
Non, j'étais vraiment motivé à l'idée de partir. J'étais prêt à laisser ma famille, mes copains, enfin tout ce qui m'attachait à La Réunion pour partir et puis tenter ma chance. J'étais vraiment voilà focus sur les Jeux Olympiques déjà, parce que j'étais déjà tout petit, j'aimais regarder le sport à la télé, je suivais tout. Je me rappelle Barcelone, j'étais encore petit, mais je me rappelais me lever la nuit, regarder ne serait-ce que les combats de Tyson ou enfin ouais, plein plein d'épreuves. J'ai toujours suivi ça, et ça m'a toujours guidé en me disant waouh, c'est incroyable les émotions que ça procure, j'aimerais un jour arriver à ce niveau-là. Donc je savais plus ou moins que ma voie était tracée, mais après effectivement, je savais pas vraiment où j'allais tomber. Montluçon, je connaissais pas trop. J'arrive là-bas et puis voilà, c'est vrai que ça a été assez compliqué au niveau de l'acclimatation. J'ai pas forcément, ouais, je l'ai encaissé. Disons que je savais pourquoi j'étais là-bas. On s'entraînait dur déjà, mais je me rappelle ouais plusieurs fois dans mon lit le soir pleurer, être en manque de mes parents, mais voilà, je gardais ça pour moi et je savais où je voulais aller. Mais clairement, ça m'a forgé mon caractère et voilà. Mais bon, ça a été compliqué, si bien que l'année d'après, j'ai pas voulu y retourner. On était en 99, on est passé en 2000, c'était le début des Jeux à Sydney, et je me suis dit bon bah voilà, pour moi maintenant, peut-être que je peux continuer à La Réunion. Et puis après, j'ai eu la chance de partir, d'aller ailleurs.
Ton approche de la performance, est-ce qu'elle était d'abord orientée sur ton propre dépassement, ou est-ce qu'il y avait cette notion d'être devant les autres? Comment est-ce que toi tu l'envisageais? C'était une question par rapport à toi, ou globalement relativement aux autres?
Non, déjà depuis tout petit, je m'interrogeais sur les capacités que je pouvais avoir, jusqu'où je pouvais aller, m'entraîner. On s'est toujours beaucoup entraîné, j'ai toujours aimé m'entraîner, j'ai jamais trop rechigné à la tâche, parce que je voulais voir où je pouvais aller. Et aujourd'hui encore, à 40 ans, je continue parce que je me demande où je peux aller, où est-ce que je peux aller. Et donc, non, non, ça a été avant tout ouais, quelque chose d'individuel, de savoir où je pouvais aller, quoi.
Comment est-ce que toi, dans ces années-là notamment, et puis peut-être depuis, tu vivais la relation à ton encadrement, au coach que tu pouvais avoir autour de toi, en tout cas à ton écosystème de performance? Est-ce que c'était indispensable? Est-ce que tu avais le sentiment d'être aussi très autonome dans ce que tu avais envie de délivrer sur les préparations et autres? Ou est-ce que tu avais besoin de ce socle-là? C'était essentiel pour toi?
Ouais, j'avais vraiment besoin de gens autour de moi pour m'encadrer. J'étais un peu lâché au milieu de la nature. J'avais pas mes parents, donc c'était assez compliqué. Donc il m'a fallu avoir mon coach qui prenne un peu ce relais de père. Et en fait, c'est lorsque je suis parti après Montluçon, donc je suis allé au pôle France à Boulouris dans le Var. Et là, je me suis vraiment établi. Voilà, je ne suis plus là-bas. C'était un endroit qui me plaisait, qui était ouais, bien pour s'entraîner. Et puis j'ai rencontré des personnes sur qui vraiment je pouvais compter et qui continuent encore je continue à échanger avec eux et continuent à me driver, ou en tout cas à m'orienter. Et non, c'est eux qui m'ont formé, notamment les coachs et puis le groupe d'entraînement. On était une dizaine d'athlètes, j'étais le plus jeune. Et du coup, bah, tous ces athlètes ont formé une bonne équipe. Et puis voilà, ils m'ont bien aidé dans mon développement personnel en tant que sportif, en tant qu'homme, ouais.
Avec des résultats sportifs qui ont été très vite remarqués, notamment avec deux titres de vice-champion du monde en 2021 et 2023, les juniors, c'est ça?
Ouais, assez rapidement, en fait, je me suis, comme je disais, assez vite établi à. Je ne me suis plus là-bas et dès lors que bah, tout se passait bien, j'ai commencé à franchir des caps à l'entraînement, puis en compétition, assez rapidement. Voilà, l'équipe de France junior, un premier titre de vice-champion du monde, puis un second. Puis là, on rentre vraiment dans le grand bain, commence à passer avec les élites. Et puis voilà, on se rend compte que ça y est, c'est lancé. Mais il m'a fallu malgré tout quand même beaucoup de temps avant de passer le cap. J'étais un athlète qui performait sur des objectifs, mais j'avais encore du mal à être régulier tout au long de l'année. Et c'est vrai que ça m'a pris quasiment 10 ans, c'est ce que je raconte, quasiment 10 ans pour vraiment être régulier à plus haut niveau et puis pouvoir s'établir au niveau olympique. Et donc, ouais, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, et puis ça a été un peu l'histoire de ma carrière. Et à chaque fois, j'ai su en fait me relever pour repartir et puis refranchir des caps. Et donc, voilà.
Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut aimer indifféremment les trois disciplines du triathlon? Est-ce que toi, tu avais une appétence et puis un talent ou des capacités en tout cas plus naturelles pour certaines de ces trois disciplines ou est-ce qu'il faut les traiter de la même façon et puis les aimer de la même façon?
Ouais, je pense qu'il faut aimer s'entraîner pour faire du triathlon. Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures de travail. Après, non, on participe à une épreuve qui comprend trois sports. Et puis, au début, je me rappelle, j'aimais pas trop faire du vélo, notamment quand il faisait froid, il fallait partir. J'étais pas trop habitué à ça. J'aimais pas ça, mais bon, j'y allais quand même. J'ai beaucoup nagé, mais je pense pas que ce soit le sport où j'étais le plus doué. Je pense que c'est vraiment la course à pied où je me suis révélé. Et puis, bah, j'ai décidé d'en faire la priorité dans mon approche en fait de la performance, de vraiment miser sur mon point fort pour tenter de décrocher les meilleurs résultats. Et puis, je me suis beaucoup investi dans cette discipline en délaissant les autres parce que j'ai pas un profil vraiment explosif. Je suis assez voilà, j'ai pas un profil trop explosif et du coup, fallait que je réfléchisse à comment pouvoir bah,
Endurant, dur au mal, plutôt, c'était
ouais,
ça, tes
voilà,
qualités.
c'était plus ça. Il fallait que je pouvais imposer un gros train, un gros tempo, mais j'avais du mal à changer de registre. Et donc, le but, c'était de partir d'entrée de jeu et puis d'essayer de durcir la course comme ça et puis de pouvoir décrocher les mecs avant le final parce que je me faisais souvent voir dans le final. Donc, c'était des bons souvenirs. Ouais.
On l'a compris, le Graal sportif était pour toi donc les Jeux Olympiques. Tu as eu la chance de participer notamment aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, auquel tu as fini à une quatrième place. Et si on devait se parler aujourd'hui du sentiment que tu éprouvais à l'époque sur la ligne d'arrivée et celui que tu ressens aujourd'hui là quand tu regardes 12 ans après cette course, qu'est-ce qui a changé?
Non, j'éprouve beaucoup de fierté à ce résultat-là. Ça a été surtout le process d'arriver sur cette ligne de départ qui a compté. Il a fallu, je l'ai dit, 10 ans pour arriver à ce niveau-là, mais les 2 dernières années, 2010-2011, je sentais que j'étais capable de faire quelque chose de grand. Je faisais des bons résultats déjà sur le circuit. J'avais gagné des courses et tout. Et donc je me suis dit, il faut parvenir le jour du départ de la course à être voilà d'être au top et d'être en capacité de pouvoir gagner la course. Et je me rappelle avoir enfin avec les coachs, c'était mon père qui m'entraînait de se mettre dans cet état d'esprit où on craignait rien et puis on était prêt à aller jusqu'au bout pour le plus beau des résultats. Et je crois que ça a été ça le jour du départ. J'étais sur la ligne de départ en me disant bah là mon gars t'as tout fait ce que tout fait dans ta préparation, tu pouvais pas faire plus ou en tout cas vraiment j'étais confiant et puis voilà après quatrième bon sur le coup c'est un peu c'est sûr bon on pense à la médaille mais quand on revoit la course on avait à l'époque trois phénomènes les frères Brandi, Gomez qui sont un peu comme Djokovic Nadal ou Federer en tennis à chaque fois qu'ils étaient là ils faisaient 1 2 3 dans un sens ou dans l'autre et nous on était entre 4 et la 12e place à se valoir une dizaine d'athlètes comme ça et puis et donc ce jour-là j'ai vraiment réussi à élever mon niveau à faire quatrième et puis en plus je partage la course avec mon pote de toujours Laurent qui lui fait cinquième et donc ça a été des souvenirs vraiment forts et puis non un objectif réussi abouti et j'en suis fier aujourd'hui.
2012, c'est une année qui a été aussi importante sur un autre registre, puisque tu t'es marié avec Mélanie, ta femme, donc aujourd'hui depuis 12 ans, qui elle-même qui était triathlète professionnelle suisse. Est-ce que c'était essentiel pour toi d'avoir quelqu'un qui puisse avoir les meilleures clés de compréhension de ton engagement sportif et réciproquement? Est-ce que c'était déterminant?
Ouais, absolument. Ouais, c'est vrai que c'était déterminant. C'est connu. On a eu la chance de se connaître sur le circuit plus tôt, lorsqu'on était déjà chez les juniors. On s'était rencontrés une fois ou deux, et puis C'est moi qui ai été la voir. Et puis, au début, je...
On veut tout savoir du premier bisou.
Ouais, non, c'est ça. Et j'ai ramé au début, j'ai continué. Puis finalement, on s'est mis ensemble en 2009. En fait, dès lors que j'ai commencé à avoir des résultats, ça coïncide avec cette époque où on a commencé à se fréquenter. Et j'ai trouvé en elle, voilà, j'ai réussi à m'apaiser, à trouver quelqu'un sur qui m'appuyer. Peut-être que j'étais en manque, je pense, de ça sur mes premières années. Et puis voilà, donc, et puis effectivement, elle comprenait bon, l'investissement qu'on pouvait mettre dans notre pratique. Et puis, elle a arrêté en 2012 parce que ben voilà, c'était le temps pour elle d'arrêter. Elle a raté les Jeux de Londres, elle voulait passer à autre chose. On s'est mariés quasiment dans la foulée des Jeux. Et puis voilà, elle m'a supporté encore 4 ans jusqu'à mon passage au trail. Mais ouais, aujourd'hui encore, c'est quelque chose d'important qu'elle comprenne et puis qu'elle sache ce que c'est, quoi.
Le trail, tu viens de l'évoquer, David, il a été présent déjà en filigrane dans ta vie avec des premières courses à partir du début des années 2010, notamment 2013. Est-ce que c'était pour toi un moyen d'exprimer ton appétence et tes qualités sur la course à pied? Est-ce qu'il y avait déjà une espèce de réflexion de préparer l'avenir ou de tester un peu ce sport-là pour voir ce que tu ressentais et te dire que ça pouvait être peut-être le prolongement de ta carrière sportive pourrait s'envisager dans le trail? C'est une façon de l'éprouver?
Oui, le trail, ça remonte à longtemps aussi pour moi, parce que bah, effectivement, venant de La Réunion, déjà quand j'étais petit, il y avait cette course-là qui traversait la Réunion. Les gars partaient de nuit avec des sacs à dos énormes et ils arrivaient dans des états pas possibles. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et puis bon, ça...
Avec fascination?
Ouais,
ça,
avec
donc.
Fascination, ouais, vraiment en me disant wow, un jour j'aimerais bien faire ça, c'était des surhommes, quoi. Et ça m'attirait en fait déjà de partir parce qu'on randonnait quand même beaucoup et de le faire un jour. En fait, j'avais deux rêves quand j'étais petit, c'était de faire les Jeux Olympiques et de faire le Grand Raid. À La Réunion, on dit Grand Raid, diagonale, hein, c'est diagonale des fous, et de les faire. Et donc, ouais,
Il faut que tu trouves un troisième rêve maintenant, David.
Ouais, il faut que je trouve un troisième rêve. Ouais. Mais ouais, pour revenir à cette histoire-là, c'est vrai que tout petit, je les voyais. Puis dans ma préparation, j'avais la chance de repartir à La Réunion quasiment 3-4 mois de l'année quand c'était l'hiver en Europe pour aller m'entraîner. Et j'aimais bien intégrer des trails dans la prépa. Alors, ils n'étaient pas très longs, mais ça faisait 20, peut-être 30 km maximum. J'en faisais un ou deux et ça me plaisait bien. Ça me changeait un peu d'idée, ça me changeait un peu la façon d'aborder les choses. Et puis voilà, et je me suis dit, sûrement après ma carrière, ça m'intéressait plus que de passer sur du trail que de faire du triathlon longue distance. Parce que le fait d'être en nature, voilà, de se retrouver dans des endroits magnifiques, c'est ce qui me plaisait, c'est ce que j'avais envie, plus que continuer dans le triathlon où c'est un peu des courses en pleine ville et ça me correspond moins au final.
Si on revient un petit peu au triathlon avant de basculer sur le trail, ce qui a dicté toi ton arrêt du triathlon, ça a été, est-ce que c'était un lien direct avec ta non-sélection au JO de 2016? Est-ce que c'est une lassitude plus globale? Est-ce que c'est une décision que tu as prise de façon apaisé ou qui a été délicate pour toi?
Ouais, c'était un petit peu tout ça. J'ai beaucoup poussé pour me qualifier pour les Jeux de Rio. J'avais déjà, je sais plus, 30, 32, 33 ans. J'avais mon premier enfant qui avait 2-3 ans et ça devenait de plus en plus compliqué de s'investir autant dans l'entraînement, de partir, les voyages. Et puis, ça faisait quand même déjà depuis 15 ans, presque 20 ans que j'étais à bloc là-dedans. Puis moi, les choses de la vie font que des fois, ça se passe pas comme on veut. Puis l'approche des Jeux a été compliquée pour moi à gérer. Puis au final, je me fais sortir de la sélection au tout dernier moment, sans trop, savoir pourquoi. Alors c'est vrai que j'étais pas en forme au mois de à 3-4 mois, non, 5-6 mois des Jeux, mais bon, j'espérais l'être au mois d'août. Hein, c'était d'être près le jour J. Et puis voilà, j'ai pas aimé comment ça s'est passé lorsqu'on il y a les Jeux Olympiques qui entrent en jeu, il y a plein de décisions qui nous dépassent un peu, on ne sait pas vraiment pourquoi elles sont prises, elles sont actées, et puis moi je suis quelqu'un d'assez cash, d'assez direct, et puis je n'ai pas aimé comment ça s'est fait, et voilà, c'était le moment de passer à autre chose, j'avais fait le tour un peu de la question, je ne me voyais pas continuer, basculer sur du long, j'avais envie de courir, me repartir dans la nature, partir longtemps, sans changer de registre de course, parce que voilà. Des courses de 2 heures ou 1 heure à fond, ça suffisait. J'avais envie de partir longtemps et de rentrer dans une gestion de course totalement différente.
Le swimrun, il a trouvé sa place comment ensuite? C'était une transition en douceur, c'est où t'as voulu expérimenter avec un peu d'ambition la discipline, ou c'était transitoire, tu l'envisageais comme un complément?
Non, c'était sans ambition, c'était vraiment une épreuve, je trouve ça cool d'enchaîner, nager, courir, en plus c'est une activité partagée, on est en binôme, et du coup c'est des émotions différentes, et on s'est motivé avec Cédric Fleurton pour faire le championnat du monde en Suède à Utile, c'était, je sais plus, au moment où je passe sur le trail, je crois 2017 ou 2018, donc on s'était bien motivé, mais bon, c'était vraiment pas du tout préparé.
7e place, c'est ça, je dis pas de
ouais,
bêtises.
On avait fait septième ce jour-là dans des conditions dantesques. C'était vraiment ce que je répète souvent, c'était il y avait un avant et un après cette course-là. On s'est levé le matin, les arbres étaient penchés, il faisait 10 degrés, l'eau était pareille à 10 degrés, la pluie. Ça a été 8h30 de souffrance, mais en même temps de partage, de communion dans l'effort, dans le dépassement de soi. Ça a été vraiment quelque chose de. On est allé loin dans la douleur. Et c'était incroyable. Je me rappelle les jours d'après, c'était comme si tu étais arrivé au paradis, le fait de rejoindre cette ligne, et on était tellement calme et serein après, peu importe le résultat. Lui, il était un peu déçu parce qu'il espérait faire mieux. Moi, j'étais content de juste d'en terminer. Mais j'ai fait d'autres épreuves, des swimruns à La Réunion, à Tahiti, un peu à droite à gauche. J'aime bien ça et je continue de le faire. Je trouve ça cool.
J'en profite pour saluer Hugo Tormento, qui est double
ouais.
champion du monde, qui est
ouais.
un très bon copain, et voilà, qui j'ai passé un très bon
ouais.
moment dans le podcast aussi.
Ouais, un gars cool, ouais.
David, avant qu'on bascule sur notre questionnaire de Proust, une dernière question pour toi. Donc là, la bascule s'est amorcée, notamment sur le trail. C'était indispensable pour toi d'être toujours dans cette démarche de haute performance?
Ouais, parce que je pense que j'avais pas tout donné encore une fois, et puis on sait que le trail c'est souvent maturité beaucoup plus tardive, bon, bien que le triathlon soit le cas aussi, mais j'étais tout nouveau dans la discipline, j'avais beaucoup à apprendre, j'ai des partenaires qui m'ont fait confiance du passage au triathlon au trail, donc j'ai continué d'être soutenu. J'avais vraiment envie de tenter le coup à fond, quoi, et je l'ai fait pendant pas mal de temps. J'ai eu des bons résultats. Après, j'ai manqué, je pense, d'être au contact d'athlètes. Je suis du coup un peu esselé en Suisse. C'est la Suisse allemande. Je parlais pas trop à l'époque. Toujours un petit jeu baragouine, mais ce qui faisait que je partageais pas les séances. C'était un petit peu compliqué l'intégration au début. Et donc, j'étais assez seul dans ma pratique, et j'aurais aimé avoir plus de conseils, ou en tout cas de partage avec d'autres athlètes pour comprendre des choses que j'ai compris avec le temps. Mais voilà, après il faut se faire sa propre expérience, et puis voilà. Ouais.
Merci beaucoup pour cette passionnante entrée en matière, David. On va passer maintenant au questionnaire de Proust. J'ai trois questions pour toi, très philosophiques, prépare-toi. Première d'entre elles, qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cette journée?
Alors, un jour parfait, déjà pour moi, il doit être passé dehors. On doit se réveiller dehors, ouais, c'est ça. On doit avoir passé une nuit dehors. Donc, se réveiller en pleine nature, ou peu importe, une tente. J'aime bien ça, l'idée de se réveiller seul. J'aime bien partir solo comme ça, se réveiller le matin assez tôt quand les lumières apparaissent. Et puis, de marcher, relier un point A à un point B en itinérance, sans forcément être attendu ou avoir d'impératif de temps pour se laisser du temps, apprécier son chemin.
Tu peux aimer ces moments-là, David, pardon, je t'interromps, ces moments
ouais.
plus contemplatifs, tu peux prendre du plaisir?
Ouais, j'adore en fait, finalement, je trouve que de plus en plus, c'est vers quoi je vais. La compétition, au final, c'est plus vraiment ce qui m'anime, ou en tout cas ma priorité première maintenant, c'est de partir, de profiter de ces moments, d'être seul ou en partage, peu importe, mais de prendre du temps en fait pour les choses, de décider de partir à droite ou à gauche, peu importe, et pas de se presser en fait, puis de prendre le temps, et puis je dirais marcher, ça peut être courir ou faire du vélo, mais relier un point, j'aime bien cette idée de voyage, de partir à la découverte de nouveaux environs, et puis donc faire quand même une bonne session, quoi, donc s'en mettre plein les jambes. Et puis après, si je pourrais, ça serait finir la journée. J'ai la chance d'habiter près du lagon à La Réunion. un petit soleil, un petit coucher de soleil sur la plage devant chez moi au lagon à La Réunion. C'est notre moment en famille, partagé en famille. Et là, voilà, là, ma journée.
Avec un petit gueuleton et de quoi boire un petit coup ou pas forcément?
Ouais. Non, peu importe. Un petit, un petit swim souvent. Après, souvent, on fait ça à La Réunion. On part tôt le matin, on va courir dans ma fat et tout. Après, on rentre. On va faire une petite natte au coucher du soleil et puis on se cale sur la plage avec les amis, on boit une bière ou pas et puis il y a les enfants qui jouent et puis là c'est juste parfait quoi.
Merci David. Deuxième question pour toi, le trait de caractère que tu estimes le plus chez les autres?
Je dirais être attentionné. J'aime bien que les gens soient dans le moment présent quand on leur parle ou quand on fait une action, que voilà, pas faire deux choses en même temps, mais prendre le temps de faire les choses et d'être avec son interlocuteur, d'être dans l'échange. Et voilà, ça, je trouve que c'est important et c'est une marque de respect. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien.
Et que tu t'appliques à toi-même, donc, j'imagine.
Ouais, j'essaye de le faire en tout cas. Ouais. J'essaye de le faire le plus possible. Alors après, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, j'aime bien prendre le temps de vivre le moment avec la personne avec laquelle
je suis
connecté. Ouais.
Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite de ta vie?
Alors, la chose la plus courageuse, on va repartir à La Réunion. Je me rappelle, j'étais avec une copine, mon ex là-bas. On habitait, pareil, près du récif, près du bord de mer. Et puis, la nuit était tombée. Et là, on entend des bruits au loin d'un homme en danger qui appelle au secours et tout. Et ça tombe assez vite la nuit. Et là, on entend des bruits, et puis on se dirige vers la plage, et on entend les bruits qui commencent à forcer, et on comprend qu'il y avait quelqu'un en détresse plus loin, échoué sur le récif. Donc moi, ni une ni deux, j'enlève mes affaires, hop, je pars le chercher. Au moment des, il y avait déjà pas mal d'attaques de requins, donc je me rappelle hésiter un peu. J'y vais finalement. Au bout de 15-20 minutes, je trouve un homme, un plongeur, je crois, un vieil homme assez lourd échoué quasiment à prendre des vagues sur la tête et quasiment inanimé. Et là, je le trouve, mais parce que il faisait nuit, j'ai eu du mal à le trouver. Et puis j'arrive tant bien que mal à le sortir, à le ramener sur le bord de l'eau. Et puis là, je sais pas, ça a dû prendre peut-être une heure cette histoire-là. Et puis je reviens vraiment épuisé. Et puis on laisse l'homme sur le bord et puis on s'en va. Et c'est vrai que ça a été une chose assez. Assez courageuse parce que je trouve c'est la nuit et puis il y avait plein de coraux, il y avait les requins, plus ça tournait pas mal là-bas, c'est vers trois bassins pour ceux qui connaissent, et ça a été après coup je me suis dit waouh.
Et il s'en est sorti?
Ouais, forcément il s'en est sorti parce que je l'entendais, il n'était pas inconscient, loin de là.
S'il écoute cet épisode en tout cas, qu'il m'écrive guillaume@courseepique.fr s'il a un message à t'adresser, je te le transmettrai. David, on va parler de ta course épique maintenant, la Diagonale des Fous. Je vais en planter le décor très brièvement, pas tant pour toi parce que je pense que tu connais assez bien le sujet, mais pour nos auditeurs qui connaîtraient peut-être un peu moins pour certains, cette course incroyable. Donc elle fait partie des quatre courses qui sont proposées dans le cadre du Grand Raid, avec différents niveaux, différents formats, au-delà de cette redoutable et emblématique Diagonale des Fous, le trail du Bromont que tu connais bien, et c'est 100 km, la Mascareigne c'est 70 km, en passant par le relais Zambrocal. Le parcours de la Diag compte 10 000 mètres de dénivelé positif et 165 km de course à travers forêts, rivières, canyons, cirques et pitons sur des sentiers de l'impossible dans la plus époustouflante des scènes sportives. Le parcours qui traverse l'île de part en part du sud au nord est considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diag est une véritable religion sur l'île de La Réunion. C'est pas toi qui vas me contredire, je pense, David.
Non, là-bas, c'est incroyable. La Réunion, tout le monde vit pour ça. Et puis, on va toujours trouver quelqu'un d'une famille qui va participer, le cousin, le truc. Donc, c'est de plus en plus, on sent la pression monter les semaines, les mois précédant la course. Et déjà, les inscriptions sont lancées. On est en avril et là, ça en reprend encore. Non, c'est assez incroyable et ça demande, d'être vécu, d'y aller au moins une fois pour le vivre.
J'ai le plaisir d'y aller cette année. Enfin, en tout cas, en octobre dernier, j'ai entendu, ça m'avait surpris à la radio, des gens qui appelaient pour avoir les positions des membres de leur famille. Donc on disait, je voudrais avoir le classement et la position du dossard 3127, c'est mon cousin, etc. Je trouvais ça génial de pouvoir entendre ça à la radio. Montrait un petit peu le rayonnement, en tout cas, à quel point l'île bat au rythme de la Diag pendant ces quelques heures. Donc le vainqueur, habituellement, il remporte la course après 23-24 heures de course. La barrière horaire pour les derniers, elle est fixée à 66 heures, soit pratiquement 3 jours de course. C'est, je crois, quasiment 24 heures de plus que l'UTMB ou pas loin. Donc ça donne une idée avec des ratios qui sont sensiblement les mêmes de distance et de dénivelé de l'engagement que requiert cette diag. Donc pour beaucoup, en tout cas, c'est devenu une course à avoir vécu au moins une fois dans sa carrière d'ultra-trailer avec un graal ultime qui est à rallier l'arrivée du stade de la Redoute à Saint-Denis. Donc c'est aujourd'hui à travers ta voix et tes mollets, David, que nous allons vivre cette course fascinante et plus particulièrement cette édition 2019 qui va nous amener aussi un petit peu à parler de celle de 2022 qui ont été éminemment épiques pour toi. Avant ça, David, on passait un super moment, mais là, c'est le moment de la question qui pique. Et ça, c'est toujours le moment où ça se corse un peu dans les échanges. Ça va être un format de vrai-faux. On va parler de La Réunion, mais pas de La Réunion, Lille, mais La Réunion au travail. Voilà. Donc, j'ai trois questions sur les réunions. Donc, j'ai une source quand même dans tout ça. C'est l'IFOP. Donc, je vais t'avancer trois faits. À toi de me dire si c'est vrai ou pas sur La Réunion. Le temps d'attention moyenne dans une réunion, moyen, pardon, est de 52 minutes.
Je dirais faux.
Bah, ça m'a paru beaucoup aussi. Ouais, ça me paraît énorme. Alors, visiblement, c'est vrai d'après l'étude, mais il y a quand même un quart des gens qui admettent qu'au bout de, enfin, dans la première demi-heure, ils ont déjà décroché. Voilà.
Ah ouais.
Une belle preuve d'honnêteté. Je pense qu'il y a un petit peu plus que ça. Deuxième question de ce vrai-faux. Un cadre sur cinq avoue s'être déjà endormi dans une réunion.
Un cadre sur cinq? Non, je dirais faux.
C'est faux, c'est plus. C'est un sur trois.
Ah ouais, c'est ça. Hein.
Ça pionce pas. Ça pionce pas mal dans les réunions. Donc, un sur deux. Bravo, David. La dernière question de ce vrai-faux, la question qui pique. Les cadres passent en moyenne plus de jours en réunion qu'en vacances.
Bon, j'ai dit trois faux, jamais 203, c'est faux. Hein.
Ah, c'est vrai, 27 jours.
27 jours.
27 jours en moyenne, donc si on exclut les RTT, c'est plus que les congés payés, en tout cas français, avec 10 réunions en moyenne par semaine.
Ah ouais, ouais. Alors,
ça fait pas envie. La réunionite, on sait faire en France, et, c'est pas toujours très productif. Bon, David, t'oublie pas de m'envoyer un compte-rendu bien détaillé de cette question qui pique par mail. T'oublie pas de mettre en copie tous les auditeurs du podcast, bien sûr, pour qu'on puisse préparer la prochaine réunion. Et débriefer de ce qu'on vient de se raconter.
Une en tête, l'entête en créole et puis le débrief en français.
Je veux bien, absolument. C'est le minimum qu'on puisse faire. Merci beaucoup, David, de t'être prêté à l'exercice. Je l'ai évoqué tout à l'heure très brièvement, mais avant la diagonale, dont on va parler plus largement aujourd'hui, ton histoire avec le Grand Raid, elle s'est déjà écrite en 2003 et 2016 sur la Mascarene, puis le Trail du Bourbon en 2017, avec sur chacune de ces courses une victoire. Quel souvenir t'en gardes? Est-ce que toi, tu as une affection très particulière aussi pour ces deux courses?
J'en garde des bons souvenirs parce que c'était pour moi en fait le chemin d'accès pour un jour aller sur le départ sur ce Grand Raid. J'aimais l'idée un peu romantique de faire toutes les courses, de prendre le temps de le faire, de pas se lancer comme ça d'une année à l'autre, allez, je fais le Grand Raid, mais de prendre le temps de progresser, de comprendre, de vivre les choses. Et j'ai fait deux fois tenté deux fois la Mascarene. Je l'ai gagné la deuxième fois, fait une fois deuxième. Ensuite, j'ai basculé sur le Trail de Bourbon, deux éditions, et puis 2017-2018 que je remporte. Et 2019, bah, c'était un peu la suite logique, mais tant désiré d'un jour de trouver ces sentiers. Donc, j'ai mis du temps, quasiment 5-6 ans avant de me lancer. Mais c'est comme je l'ai dit, c'était quelque chose de réfléchi, de posé, de quelque chose
une belle construction,
de désiré, quoi, vraiment. C'était quelque chose de fort, et c'est pour ça, lorsque j'ai préparé pour cette course, j'étais animé de quelque chose de fort et de vraiment motivant, quoi.
T'as le souvenir d'avoir mis en place des choses particulières dans ta prépa d'alors, là, pour cette diag?
Non, pas vraiment de choses particulières, mais l'intérêt que j'avais pour d'être au départ c'était incroyable, et mais je savais pas vraiment comment me préparer, en fait. Et je savais pas s'il fallait courir des jours, des nuits entières pour faire ça. Donc j'ai fait comme je savais faire un petit peu, et je me suis dit comme je suis de manière générale, je me dis ça va passer. Et c'était Ludo Pommeray qui m'avait dit souvent le premier ultra on le réussit parce que on s'attend à rien. Et c'était vraiment ça, je m'attendais à rien, je partais la fleur au fusil, en tout cas le bonheur de partir, et puis ça allait me suivre toute la course, et ça allait me guider, quoi.
Parce qu'il faut le dire, c'était donc ton premier 100 miles à cette occasion.
Premier 100 miles, effectivement, en 2019, ouais.
Est-ce qu'il y a une pression ou une émulation supplémentaire, le fait de jouer à domicile? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que ça change des choses, toi, ou est-ce que tu traites cette course-là comme une autre course dans le monde?
Ça a plus été le cas en 2022. Parce que j'étais beaucoup plus attendu. Là, je me lançais sur mon premier 100 miles. J'ai, de manière générale, je sais gérer la pression. Je suis habitué à ça avec les grosses courses que j'ai pu faire en triathlon et tout. Et je me nourris de ça, en fait. Je me nourris de tout, enfin, l'engouement qu'on peut me porter, toute l'attente et tout, ça me porte malgré tout. Et donc non, je suis assez relax à l'approche d'une course. C'est pas quelque chose qui va qui va me freiner comme ça.
T'empêcher de dormir.
Non, vraiment pas quoi. Et ouais, non, c'était vraiment le bonheur d'y aller quoi.
Quel objectif on se fixe là quand on court un premier 100 miles? Qu'est-ce que toi t'avais en tête pour te dire, Madiag, elle sera réussie?
Bah d'aller au bout. Vraiment, c'était vraiment ça l'idée d'aller au bout. Je crois que j'avais même pas planifié de temps. Peut-être on me l'avait fait pour moi, mais je voulais pas savoir. Je cours à la sensation. Moi, je pars. Je sais pas trop. J'écoute le corps. J'écoute le feeling, les sensations du moment, les émotions qui parlent. Et puis je me laisse guider. Je me laisse porter. Ça m'a souvent bien réussi. Donc non, j'espérais juste aller au bout. Après, je suis un compétiteur, donc je sais que j'allais donner le maximum pour ça, et puis vraiment aller loin dans la douleur, dans le dépassement de soi. Donc j'étais pro combat, mais c'était pas quelque chose qui pouvait me gêner quoi.
Tu jettes un œil attentif à la start list? Ça fait partie des choses que tu regardes de loin?
Non, j'avais pas regardé sur cette première édition. Je crois pas que j'avais regardé. Et c'est un peu tout le contraire sur, encore une fois, on fera souvent le parallèle avec cette course, mais sur la deuxième ma deuxième participation. Là, j'y étais vraiment allé dans un esprit de découverte, quoi.
Est-ce que malgré tout, la sérénité dont tu nous as fait part, est-ce qu'il y a quand même une part d'interrogation sur cette première dague, sur ce premier 100 miles, est-ce qu'il y a une chose qui te questionne?
Ouais, j'attendais de savoir où est-ce que ça allait pêcher, parce que je me rappelle les deux éditions en fait d'avant du Trail de Bourbon qui faisait 115 km, j'avais pas eu ce coup de barre, ou en tout cas où je m'étais écroulé, donc je me suis dit je dois avoir 14-15 heures dans les jambes, 115-120 bornes, ça devrait passer. Et après voilà, c'est l'inconnu, donc j'appréhendais ça, j'appréhendais ma fat, la fin de course, sans savoir. Mais bon, là encore, en me disant, ça va le faire. Si tu manges bien, si tu t'hydrates bien, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Et puis, non, c'était un peu comme les Jeux Olympiques au final. J'étais sur la ligne de départ, assez confiant, serein, en étant, je savais ce que j'étais capable de faire. Et puis, il fallait juste exécuter, bien mettre le plan en œuvre, et puis y aller quoi.
Sur la nutrition là que tu as évoqué, tu es de la même façon très à l'instinct et aux sensations, tu t'écoutes ou est-ce que c'est quelque chose que tu élabores avec minutie?
Habituellement je m'écoute, mais là on a décidé, j'avais des potes, enfin mon père qui ont fait cette course plusieurs fois, et on s'est tenu à un régime strict, ou en tout cas à des timings précis d'hydratation pour manger et tout. Après, plus la course elle avance, moins tu les respectes. Mais en tout cas, jusqu'au début, jusqu'à la moitié de la course, j'étais bien dans le timing, et ça m'a bien aidé au final. Parce que souvent, je pars un peu vite et tout, donc je suis un peu dans les tours, et je prends des coups de latte, et après je repars. Mais voilà, là c'était l'idée de partir vraiment calmement, de faire ça bien, et puis d'aller au bout. Ouais.
Ferme les yeux, David, on est le 17 octobre 2019. Il est bientôt 22 h. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance sur la ligne de départ dont la réputation n'est plus à faire? Là, ça y est, c'est ta Diag, c'est le moment de te lancer. Quel souvenir tu gardes de ce moment et puis tes premières sensations sur les tout premiers kilomètres? Comment tu vis ce moment?
Écoute, je me rappelle arriver sur le front de mer quasiment une demi-heure, 40 minutes avant le départ. C'est assez tardivement. Moi, j'arrive vraiment tout le temps en dernière minute sur la ligne de départ. Et là, la musique, je me rappelle les gars, les musiciens qui jouent sur le front de mer, et la musique me porte, et je danse, et je suis là, j'ai envie de communier avec les gens qui me reconnaissent, qui me motivent, les maloya crasés, tout ça. Et puis, j'ai le sourire, j'ai la banane, j'ai envie d'y aller, je me sens bien, je me sens à ma place, avec le bonheur de vivre, d'aller vivre une aventure incroyable quoi. Voilà, et puis le départ a donné, je profite, il y a les 5 premiers kilomètres sur le front de mer, là où c'est rempli de gens, ça tape dans les mains, et je profite au maximum, je me mets un petit peu en retrait, et puis je profite, et j'emmagasine comme ça l'énergie, le bruit, le son. Et puis après, assez rapidement, on commence à monter vers le volcan, et là c'est la nuit noire, et il n'y a plus de son. Donc je profite un max, je tape dans les mains, et puis ouais, content d'être là vraiment.
La course, elle prend une drôle de tournure pas très longtemps après, puisque sur le début de course, Malheureusement, vous allez emprunter un mauvais chemin suite à une erreur de balisage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, puis toi, ton sentiment à ce moment-là et les clés que tu as pu activer pour te remobiliser?
Ouais, alors c'est vrai, le départ est donné. Comme je te dis, je me sens bien serein, calme. Je me mets vite bien dans ma course, calé. Et puis là, on attaque les premiers contreforts. Et puis, je sais plus, moi, je suis tant bien que mal. Enfin, non, plutôt assez aisément. Et puis, je me porte sur l'avant de la course. Et puis, il y a Jordi Gamito qui me rejoint. Puis, un Canadien, David Dekker. Et puis, on file tous les trois comme ça. Assez rapidement, au bout d'une heure de course. Et puis, comme je te dis, l'allure est cool. On est content d'être là. Je sais, je me rappelle me dire, là, tous les voyants sont au vert, là, c'est la nuit est lancée et tout, calme, pense à bien boire, pense à bien manger. Et je me mets en troisième position comme ça. Et puis je me laisse guider, je me laisse sans trop regarder où je vais, quoi. Et puis effectivement, au bout de juste avant le deuxième ravitaillement, on prend une bifurcation où un petit endroit, il manque de balisage. Et là, je crois que c'était Jordi qui devait mener. Et on se met à redescendre, redescendre. Et puis moi, franchement, j'avais pas capté, quoi. J'étais là dans le flow, vraiment, vraiment bien, paisible et tout. Et au bout d'un moment, au bout de 30 minutes, je dis, ah, les gars, c'est pas normal. On se rapproche des lumières alors qu'on est censé monter vers le volcan. C'est pas normal. Et là, il y a le Canadien qui check sa montre. Parce qu'au final, tout souvent, on me dit, ouais, mais t'as pas mis ta montre. Mais tu mets ta montre, elle sonne à chaque intersection, ça sonne. Donc au bout de 5 minutes, tu ne la regardes plus, ta montre. Donc tu sais pas trop. Et moi, je me cale en troisième, et quand c'est la nuit noire, bah, tu suis les pas du gars devant toi, donc tac, tu en bifures comme ça, et puis au bout d'une demi-heure, il check le GPS, il dit, ouais, non, on a fait fausse route et tout, on doit tout remonter et tout. Et
7 km de descente, c'est
ouais,
possible?
7 km, ouais, c'est ça, 7 km de descente. Nous, on était vraiment ceux qui sont descendus le plus loin, et là, je me rappelle être pris d'un stress en me répétant, mais non, mais c'est pas possible, je me répète ça, c'est pas possible comme ça. Et là, tous les voyants qui étaient verts et tout, là, tout passe au rouge. C'est l'énervement, la crispation. On essaie de repartir au sprint parce qu'on ne sait pas au final combien de temps vraiment on a perdu. On remonte comme ça à bloc. On était censé arriver au deuxième ravitaillement. Tout de suite, plus d'eau, plus à manger parce qu'on rationne vraiment. On prend le minimum pour vraiment refaire les batteries à chaque fois. Donc, tac, plus d'eau, plus rien à manger, tout le stress. Et là, tu te remémore l'action et tu dis non, c'est pas possible, il y a eu un truc, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis bam bam, tu continues, tu vois les faisceaux lumineux au loin, et là tu comprends que bah t'es en milieu de paquet et que effectivement tu t'es paumé. Donc tac, je retrouve mon staff assez rapidement au deuxième ravitaillement, on fait le point, on me dit bah là t'es 500e, écoute, il y en a, tout le monde s'est perdu, donc il y a pas grand chose. Voilà, rien n'est joué, tout est à faire. On m'a calmé parce que j'étais arrivé vraiment énervé. On m'a posé, on m'a assis sur une chaise 5 minutes. Et en fait, là, je me suis dit, OK, t'as perdu qu'une heure, parce que je savais qu'au final, on avait perdu 57 minutes exactement. Et là, je me dis, OK, bon, normalement, parce que là, j'étais parti en fait dans la course en me disant, bon, bah, je pars avec les trois premiers. Mon but était d'avoir la meilleure place possible. Donc, je me dis, écoute, en une heure, il y a moyen de revenir podium parce que le podium, souvent les trois premiers, ils se jouent en plus d'une heure. Donc fais les choses bien et essaye de revenir. Et puis voilà. Donc je suis reparti comme ça en me disant bon, c'est qu'une heure, prends ce que tu peux prendre et puis remonte et puis fais des choses comme tu les faisais.
Donc assez rationnel finalement, tu as parlé d'une dimension émotionnelle assez forte, mais finalement tu as réussi à
Ouais,
très vite la
vraiment.
contrarier par cette
Ouais,
vision la plus analytique.
vraiment assez rapidement, j'ai analysé les faits et puis je me suis dit, OK, rien n'est perdu, tu continues et puis vas-y, maintenant il faut remonter, il faut montre de quoi tu es capable, de ce que tu peux faire, et puis on ne sait jamais, sur devant ça peut craquer, ça peut abandonner, et puis on verra jusqu'où ça peut aller. Et en fait, donc j'ai commencé à remonter, remonter, remonter. Les gens ne comprenaient pas, et je sais je me rappelle qu'au début, il fallait que je slalome et que je passe dans les. Parce que les petits sentiers, mais les gars, laissez pas passer, parce que quand t'es 400, 500e, enfin, je sais pas, tu laisses moins passer que quand t'es 20e, parce qu'il y a moins d'espace, et les gars jouent peut-être plus je sais pas, leur vie, mais ça a été compliqué, à remonter. Et voilà, j'y arrive, doucement, doucement, et puis après, les gens commencent à me reconnaître, et puis, au fur et à mesure de la course, les gens se sont rendus compte, enfin, les athlètes, les coureurs, de ce qui s'était passé. Et tout le monde s'est mis à m'encourager, à me motiver pour me remonter. Et ça a été quelque chose de fort et ça a été très motivant.
Toi, ton cerveau, il est passé à autre chose à ce moment-là. Tu étais vraiment dans ce qui t'attend devant toi. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de défi aussi de te dire quel type de remontée tu peux opérer? Est-ce que ça, à partir du moment où l'objectif initial change?
Ouais, c'est un peu les deux, parce que je me rappelle chaque fois me répéter, t'as perdu une heure, tu devrais pas être là, tu devrais être une heure devant et tout. Et ça, j'ai eu du mal à m'en défaire. Mais d'un côté, j'étais intrigué par l'idée, ou par me dire, mais jusqu'où tu peux remonter, jusqu'où tu peux aller. Là, tu veux te montrer à toi-même des choses. Bah là, c'est le moment d'y aller, de mettre les choses en place pour remonter et tout. Et du coup, c'est ce que j'ai malgré tout réussi à faire, à laisser les idées noires de côté, et puis continuer, et puis assez rapidement de me dire le but premier, c'était d'aller au bout. Donc vas-y, va au bout, continue. Mais c'est vrai qu'on était à 2 heures de course et je me rappelle me mettre en mode course au bout de 2 heures, en fait, à l'intensité de course que je prévoyais de me mettre à la sortie de ma FAT, en gros, vraiment peut-être 8-10 heures plus tard. Et du coup, moi, ouais, j'ai beaucoup laissé d'énergie, laissé de force dans cette remontada, et ça m'a coûté un petit peu plus loin. Enfin, sur la fin de course, au niveau de la possession, où bah là, j'avais plus rien dans le moteur et ça a été compliqué de rejoindre l'arrivée, mais en tout cas, ouais, c'était quelque chose de ouf. Ouais.
Il y avait de la place pour du plaisir malgré tout dans ce que tu racontes, ou c'était plutôt de finir ce que tu avais entrepris, une espèce de mission plutôt?
Ouais, c'était plus de la mission. C'était plus de mission remontada, mission la redoute, notamment après, parce qu'après, je remontais, j'ai jamais trop suivi finalement mes plans alimentaires. Enfin, sur la fin, j'arrivais plus parce que j'étais dans un autre registre de course où j'avais trop donné trop tôt, donc j'arrivais plus à manger, plus trop à boire. Et puis ça a été la fin de course a été compliquée, notamment à la deuxième nuit où j'arrive sur la possession, il se met à faire nuit, il y a le chemin Ratino là en bas, là la Cala, tout ça, c'est un parcours assez un chemin vraiment compliqué de nuit. Et j'arrive à la possession dans un état second, et là c'était la croix et la bannière pour rejoindre l'arrivée. J'ai pas pu gagner de place, j'étais sixième à ce moment-là, j'en ai plus perdu, et mon seul but c'était d'arriver, de rejoindre la ligne, et ce que j'ai fait au final, mais c'était compliqué les trois quatre dernières heures de course.
Tu conclus donc cette diag à la sixième place, tu l'as dit, après 25 heures et 27 minutes de course. Quel apprentissage toi t'en retiens? Qu'est-ce qu'elle a pu t'apprendre sur toi, cette course?
Au final, dès que je passe la course, à chaud, je me dis finalement, un ultra, tu peux vraiment attaquer assez tôt. Je me dis, j'ai attaqué au bout de 2 heures de course parce que j'étais dans un état de stress, et je me dis, mieux gérer, on peut faire un ultra en attaquant finalement assez tôt, et il y a quelque chose qui a basculé en fait dans mon esprit en me disant, tu peux y aller assez tôt et tu peux attaquer. Voilà, ça a été une aventure folle de remonter et puis de sentir cet engouement des gens qui me soutiennent et qui me poussent et tout.
T'es très vite projeté sur l'idée de renouer avec la Diag, c'était une évidence?
Ouais, dès que je suis arrivé, j'étais vraiment fatigué parce que j'avais plus d'énergie, mais musculairement et tout, ça allait. Et je me suis dit, bon, bah, je veux ma revanche, je veux que ça se passe bien. Je prévoyais de le faire l'année d'après. Et puis, l'année d'après, donc, c'était le
Covid 2020.
Le Covid 2020.
Le dos en 2021.
Voilà, c'est ça. Donc, en 2020, je repars à La Réunion et je fais le record du Piton des Neiges aller-retour depuis Pierrefonds, le jour de la course, en fait, vers le 20 octobre, et puis ça a été un peu mon objectif final, pour terminer l'année. On s'était organisé ça, c'était assez cool, c'était beaucoup moins long, c'était 75 km aller-retour, mais voilà, en me disant, bon, bah, continue dans cette voie-là, il y a du bon, et puis voilà, après, bon, il y a eu le dos, j'ai eu aussi mon troisième garçon, ça a été assez compliqué, parce qu'on a eu pas mal de soucis avec lui sur les premiers mois, donc ça a été compliqué à gérer. Les choses sont pas enchaînées comme je voulais. En fait, à la sortie de ce grand raid, je me suis dit, ok, tout part de là. Maintenant, voilà, on attaque. C'était mon premier grand raid, mon premier 100 miles. J'ai fait sixième. Je fais 25h30 en me perdant, machin. Je voyais, enfin, où j'en étais, et puis où je voulais aller, et puis au finalement, les 2-3 années qui ont suivi vraiment pas passé comme je l'avais imaginé, et ça a été compliqué, ça a été compliqué à gérer avec les blessures aussi, et puis Et donc, du coup, ouais, je reviens sur le Grand Raid en 2000, 2022, avec l'espoir de faire mieux, quoi. Faire mieux que sixième.
C'est même quasiment un objectif d'une vie, non? Tu le décris un peu comme tel, hein,
Ouais.
tu l'as décrit un peu comme tel, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de choses en place pour y performer. Tu annonces tes ambitions aussi, je crois, de façon assez ferme. Est-ce que tu as le sentiment d'arriver dans les meilleures dispositions possibles pour défendre tes chances cette nouvelle fois?
Ouais, c'est vraiment, c'est ça, comme tu dis, c'était la course d'une vie. Je rongeais mon frein depuis 2 ans de ne pas pouvoir être au départ. J'attendais ce moment-là depuis avec impatience. Je m'étais beaucoup préparé. Je sortais de blessure l'année d'avant, donc j'étais revanchard. J'avais réussi à faire une bonne préparation tout 2022, à revenir à un bon niveau. Je gagne une course à Montreux, puis après à Wildstrubel, stage en altitude, donc j'étais vraiment en bon état de forme. Et avec cette idée en tête que je veux faire mieux que sixième et mieux que 25h30. Donc, je suis très attendu. J'arrive habituellement début octobre, 3 semaines avant. J'aime bien arriver 3 semaines avant avec la famille, on cale et tout. Là-bas, je revois mes parents, mes amis, je m'acclimate. Et là, j'arrive là-bas, je sortais de gagner ces courses et tout. Et finalement, putain, tous les gars me parlaient de cette course-là, quoi. Je partais courir, je sortais faire à la plage ou faire des courses, machin, et tous les gars, ah, David, David, Grand Raid, cette année, ça pousse, là. Et du coup, moi, j'étais là, ouais, comme je suis, quoi, je dis, ouais, je vais faire mon maximum, et du coup, ça m'a, ouais, je sais pas, ça m'a tourné, quoi, enfin, et du coup, je suis arrivé, ouais, sur le jour de la course, en étant assez, bon, confiant, ouais, j'étais entraîné, j'étais fort, je me sentais vraiment fort, mais j'avais pas fait le deuil, j'avais pas travaillé, en fait, sur l'échec passé où on s'était perdu et en fait tu veux le premier mur que j'ai pris en 2022, je l'ai pris plein face et j'ai pas réussi à y faire face, quoi.
Oui, parce que l'adage dit jamais 203, mais là en l'occurrence, ça a été jamais 102
Ouais.
pour toi, malheureusement, puisque tu es parti aux avant-postes avec notamment Grégoire Körmer. C'est passé sensiblement la même chose en termes de balisage, une erreur qui t'a coûté enfin qui vous a coûté peut-être un peu moins de temps.
Ouais, beaucoup moins de temps, ouais.
Sauf que tu n'as pas eu tout à fait la même gestion, en tout cas, que la fois précédente, et une colère très vive à ce moment-là. C'est quoi? Tu sens de l'injustice? C'est de la colère, justement? C'est ça le juste terme?
Ouais, c'était vraiment de l'injustice. J'avais pareil. En fait, j'avais réussi à me remettre dans un état d'esprit avant la course, pendant ce début de course où j'avais ressenti quasiment les mêmes sensations, le même feeling que j'avais eu 3 à 4 ans auparavant, en étant calme, serein, en étant bien, vraiment content d'être sur les sentiers, de partir la nuit sur Cillon. Et en un rien de temps, tout bascule. Pareil, je revis la scène passée. Là, ce coup-ci, on était parti avec Grégoire. On s'était déjà perdu une première fois. Ensuite, on était un petit groupe de 10. Et là, c'est incroyable parce qu'en fait, je mène quasiment toute la montée. Je suis devant, je mène, et personne ne veut passer. En me disant au bout d'un moment, quand on arrivait en bas du nez de bœuf, là, je dis, ah, les gars, maintenant, passez, prenez votre relais. Ça fait 1h30 que je cours devant. Et là, je sais plus, c'est ouais, le pote d'Antoine Guillon qui passe devant. Tu vas pas me croire. Et 100 mètres après, on bifurque et on prend une mauvaise route. Et là, on part pareil, on redescend, quoi. Et ça, c'est pareil. Ce sont des chemins que j'ai pris, que je prends depuis tout petit, que je connais par cœur. Mais là, j'étais en 5e-6e position du peloton. Je regardais, il était peut-être 1h du matin. Je regardais les pieds du gars devant et je savais pas forcément où on allait. Je savais qu'on montait. Et là, c'est incroyable. Au moment où je leur dis, les gars, allez-y, passez. Et on s'égare 100, 200 mètres plus loin, quoi. Et là, on revient en sens inverse, on revoit les lampes, les lampes, un peu ce que j'avais vécu en sens inverse. Les gars qui disent, mais vous êtes trompé de chemin, non, c'est vous, non, machin, le temps de comprendre et tout. On a perdu 17-18 minutes, je crois. Mais là, c'était impossible de se remettre dans un bon état d'esprit. J'ai vraiment éclaté, pété un câble, enfin, ouais, explosé, quoi. Et Maxime Cazajou qui part au sprint, je me rappelle, et moi qui cherche à le suivre et tout pour essayer de remonter un maximum en un rien de temps et tout. Au final, on s'est cramés tous les deux. Et puis arriver à nez de bœuf sur le plat, courir à 18 à l'heure pour essayer de revenir. Donc je reviens à 5-6 minutes de la tête de course de Beignat. Je crois que c'était Beignat Marmisol à ce moment-là. Donc rien n'était joué, mais dans la tête, j'arrêtais pas de ressasser. J'étais à me dire, ouais, non, c'est injuste,
T'étais
pourquoi?
sorti de ta course.
Ouais, vraiment, j'étais déjà sorti de ma course et je me rappelle Courtenay faire toute la montée avec Courtenay et l'Américain, le grand Américain, là, pendant 30 minutes, elle avait le smile, elle essayait de positiver et tout, et moi je ronchonnais, j'étais là, putain, putain, Et elle, elle était pisse comme elle est en train de là de enjoy et tout cool. Et puis j'ai pas
C'est toi
réussi.
qui étais dans la pain cave, pas
Ouais,
elle.
voilà, vraiment, vraiment ça. Et puis arrivé en bas, c'est terminé quoi. Terminé, bonsoir. Je veux plus être là. Je rentre à la maison quoi.
Donc l'abandon, il vient très vite à l'esprit.
Ouais, l'abandon, il vient très vite à l'esprit. En fait, ouais, j'ai vraiment, j'ai pas accepté l'idée. Et puis même aujourd'hui, je regrette pas d'avoir abandonné. Si j'aurais pu même arrêter encore plus tôt, j'aurais arrêté plus tôt. J'ai essayé de continuer parce qu'on m'avait motivé en me disant bah peut-être que ça reviendra un moment, mais j'étais mentalement j'étais vraiment plus, et finalement aussi physiquement je suis arrivé en bas du Thai Beat vraiment déphasé, comme si que j'avais couru pendant 3 jours. Je mangeais plus, je buvais plus, j'avais enfin j'étais plus, et donc voilà, j'ai pas réussi à me remettre dans l'état d'esprit nécessaire pour aller au bout. C'était trop dur, trop compliqué, et c'était le moment de rentrer, de laisser ça derrière moi.
Donc, tu as une réaction qui a été assez vive dès le lendemain, de ce que j'ai compris en lisant l'article hautement recommandable de Distance Plus de Nicolas Fréret. Une réaction qui a été très apaisée finalement, déjà. Est-ce que, déjà, ton regard à ce moment-là, est-ce que tu as le sentiment que c'est cette course-là et cet instant-là qui t'a fait déborder? Est-ce que c'est finalement une goutte d'eau sur une espèce de trop-plein un peu plus global? Tu parlais d'un contexte un peu plus général. Est-ce que c'est un ensemble de choses qui fait que d'un seul coup, ça c'était le truc en trop? Ou est-ce que c'est intrinsèquement cette course et juste le fait que le scénario se reproduise, etc., qui t'a mis hors de toi de façon. Enfin, c'est ça qui est responsable de cette colère
Ouais,
froide?
non, c'était vraiment que ça se reproduise encore une fois, voilà, que je ne puisse pas donner le meilleur de moi-même dans la course la plus juste. J'espérais, j'y allais pour gagner, clairement. Donc, la chose se passe pas comme je souhaite. J'ai pas réussi à remettre les idées au clair. Et puis, ça a été terminé. Et le fait de l'avoir vécu avant, bah, et en fait, c'est marrant parce que on s'est perdu avec Choumi, avec
Jean-Philippe Chouin.
ouais, Jean-Philippe Choumi. Et la première année, lui termine pas en fait. Lui, il abandonne. Et moi, je continue, je vais au bout, je fais 6. Et la fois d'après, on se perd encore ensemble. Et cette fois-ci, moi, j'arrête. Et lui, il gagne la course, quoi. Oui, non, il fait deux, je crois. Oui, je crois qu'il fait deuxième. Enfin, c'était marrant. Et non, non, donc, non, non, c'était terminé. Je voulais plus être là, quoi. Vraiment, c'était terminé.
Il y a ensuite une petite descente. Ça déclenche en tout cas des conditions psychologiques assez compliquées pour toi, les conséquences de cette course. C'est quoi les premières choses qui sont manifestées, en tout cas, qui t'ont laissé penser que ça, il y avait quand même à avoir un impact assez important de cette course-là sur toi, ton moral, sur ton mental et tout ça? C'est quoi? T'as eu moins d'envie sur plein de choses?
Les jours d'après, ça a été, ouais, non, ça a été bien. Enfin, non, j'étais triste, déçu, abattu, mais bon, j'en faisais pas une montagne. On est parti en vacances, j'ai un peu décroché et tout. Et je pensais que j'allais m'en remettre, quoi, comme j'avais réussi à le faire la fois d'avant. Et en fait, c'était lorsqu'on est rentré en Suisse, on a fini notre séjour à La Réunion, qui avait duré peut-être un mois ou deux encore après la course. On était rentré début décembre, et il a fallu commencer à repartir à courir, à commencer à se remettre et tout. Et puis quelque chose était cassé, quoi. J'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie de partir courir, plus envie de faire du sport. Et progressivement, ça s'est venu comme ça s'est installé un peu de manière sournoise. Je l'ai pas vraiment vu arriver de semaine en semaine. J'ai pas fait le enfin, Ouais, j'ai pas eu la clairvoyance de le voir arriver. Et puis, je me suis retrouvé au mois de mars, avril, en dépression, au fond de mon lit, à plus vouloir bouger, à plus vouloir rien faire. Et c'en était trop, quoi. Il fallait que je décroche, il fallait que j'arrête. Et puis, j'ai essayé plusieurs fois de repartir en me disant, allez, chaque lundi, où je me dis, allez, c'est reparti. Et puis, ça tenait un jour ou deux. Et puis, j'avais vraiment plus envie. Donc j'annonce une pseudo-retraite un petit peu plus tard pour en fait m'enlever tout ce poids, toute la pression que j'avais pu me mettre, parce que bon bah j'avais des partenaires, bon, j'ai toujours des partenaires, enfin pas des obligations de résultat, mais c'est moi qui voulais bien faire et tout. Et en fait j'arrivais pas à m'en détacher, donc j'ai dit que j'arrêtais un peu tout ça. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai fait d'autres choses, et je suis retourné un peu plus tard vers la famille et tout, et j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Et puis c'était le renouveau, mais ça a été ouais, des mois
Un long
compliqués,
chemin, ouais.
un long
Une année
chemin,
difficile, ouais.
ouais, une année difficile.
Tu en parlais autour de toi, David? T'avais la capacité d'aller et
Non,
l'envie, ou c'était un truc que t'avais vraiment gardé pour toi et impossible de partager, de te faire aider?
non, c'était j'en parlais avec ma femme et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Suisse, je suis assez, comme je le disais au début de podcast, assez isolé. connais pas grand monde, ou en tout cas la barrière de la langue ou de mon activité, le fait de, bah, d'aller faire du sport un peu toute la journée, ça fait que je rencontre pas grand monde, ou en tout cas les gens avec qui je pourrais en discuter ou qui sont dans le même univers que moi. Donc non, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, et je garde généralement les choses pour moi. Donc ça s'est resté, ça a travaillé, et puis à un moment ça a explosé, mais bon, ça, ouais, comme je l'ai dit, c'est uniquement parce que je l'ai voulu, et j'ai laissé passer l'orage que je m'en suis sorti, parce qu'à un moment, bah, tu touches le fond et tu repars, mais c'est parce que, ouais, je l'ai voulu et j'ai décidé d'avancer de nouveau, et puis voilà, quoi.
Est-ce que tu as pu ressentir une espèce de forme de culpabilité? Le mot est assez fort, mais par rapport à toi, tu parlais de tes partenaires, je dis pas que c'est forcément la situation devrait être ça, mais est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu ressentir auprès de tes proches, des gens qui comptent?
Non, j'ai pas ressenti de culpabilité, mais c'était, je sais pas, c'était difficile à mettre vraiment un mot là-dessus, hein, comme si j'étais dans un nuage gris, noir, ou je sais pas, j'avais pas de sensation, pas d'émotion, j'étais triste, j'avais envie de rien, c'était compliqué.
Tu avais la conviction que ça pourrait aller mieux, ou est-ce que tu étais
oui,
enfermé dans une espèce d'impasse en disant c'est un état dont je vois pas le bout et je verrai pas le bout?
Non, ce que je me dis souvent, c'est que les choses tournent, finissent toujours par tourner, et qu'à un moment ou à un autre, j'allais m'en sortir. J'ai été souvent dans des états, enfin, pas dépressifs, mais je veux dire de down, parce que j'avais raté une course, ou bon, souvent c'est lié au sport, parce que ça représente beaucoup pour moi. Mais ça fait toujours fini par tourner, et puis je me suis dit, bon, bah, ça prendra le temps qu'il faut, mais en gros, voilà. Fais autre chose, tu peux faire autre chose, profite un peu, t'es malgré tout en bonne santé, t'es pas blessé et tout, et qu'à un moment donné, j'allais faire en sorte de repartir de l'avant, donc ça m'a pris quasiment un an. Ouais.
Est-ce que t'as le souvenir d'un moment où t'as entrevu un peu cette lumière, une espèce de déclic où tu t'es dit, ok, là j'ai l'impression que le truc c'est en train de réenclencher, j'ai un peu plus envie qu'avant, il y a des choses des petits curseurs qui sont en train de bouger, qui m'indiquent que je suis peut-être en train de reprendre le chemin du mieux?
Oh. Ouais, c'est lorsque on était en fin d'été au niveau peut-être fin août, début septembre, je crois qu'il y avait eu l'UTMB. J'avais complètement décroché et on avait suivi ça sur l'ordinateur, et j'avais ressenti une petite lumière à l'intérieur de moi, une petite flamme se raviver, en me disant, putain, j'aimerais quand même un jour vivre ça, quoi, le départ, l'arrivée et tout. J'avais la chance d'y être quelques années avant, de vivre l'arrivée en tant que spectateur, et de le partager avec ma famille comme ça. Et voilà, et ensuite, il y a eu le Grand Raid quelques mois plus tard, et ça a été assez compliqué. En fait, dès lors que le Grand Raid s'est passé, comme si qu'il y avait la boucle était bouclée et que je pouvais à nouveau partir sur un nouveau nouvel épisode. Donc, on était au mois d'octobre, et du coup, ma femme, elle me voyant un peu au fond du trou, en me disant, bon, bah, maintenant, je prends ma place, quoi. Je prends le relais, c'est moi qui vais recourir. Donc, je dis, vas-y, ouais, carrément, vas-y, cours. Ça fait 10 ans que tu me laisses faire.
Ça a mis ça entre parenthèses.
Ouais, voilà. Et donc, j'ai pris un peu plus le relais sur les enfants. Elle a couru. Et puis, fil en aiguille, on a commencé à repartager des bons moments en montagne et tout, des sorties. Puis, c'est revenu naturellement. J'ai travaillé aussi pas mal, hein, sur tout ce qui s'était passé avec des spécialistes et tout. Et puis, ils m'ont drivé un peu sur comment penser, comment appréhender les choses. Et puis, voilà, c'est revenu doucement dans la...
doucement dans l'ordre. Sur les rails.
Et puis, voilà, et puis, on en est là aujourd'hui. Ouais.
Et peut-être dans les facteurs aussi qui t'ont accompagné. Tu en as parlé au tout début de l'épisode. Le pain, enfin, faire quelque chose de tes mains, en tout cas, d'avoir cette occupation-là, ça peut-être aussi... permis de remettre les choses un peu à l'endroit. T'es coach aussi par ailleurs, on l'a pas évoqué, en trail, en triathlon, j'imagine aussi ce contact-là, ce partage, ça a pu te permettre aussi de remettre un peu tout dans la bonne direction. C'est toujours très complexe, c'est une multitude de facteurs, mais
ouais, effectivement, c'est le fait de toujours, depuis tout petit, de faire du sport. Je regrette, enfin, je regrette, je sais pas si c'est le bon mot, mais de ne rien créer, en fait. Je pense, j'ai un côté artiste en fait en moi qui s'est...
J'ai vu que tu sortais ton album le 1er avril.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ben là, j'étais à Locarno la semaine dernière, et là, je monte en Hollande ce week-end pour jouer. Et donc voilà. Non, mais voilà, de créer des choses, en fait, c'est ce qui me manquait, ce que j'avais jamais fait. Et plutôt que, voilà, de courir, tu répètes, t'es dans ta tête, et puis voilà. Et donc, J'ai eu l'occasion de faire ça, et puis j'allais, je fais aussi les jardins et tout, je fais des trucs, je tonds, je machin, je fais. Et c'est des, voilà, je suis dehors, enfin, ou tôt le matin, j'aime bien, c'est calme, c'est serein pour le pain, c'est des trucs. C'est assez solitaire, ce qui me plaise bien au final, mais me servent beaucoup.
Tu l'as annoncé en tout début d'année, tu es back in the game. On est d'accord que le curseur, il est plus tant sur la performance que c'est le plaisir. Enfin, en tout cas, c'est l'envie, c'est de te bonifier avec l'âge. Il y a un petit pas de côté quand même sur globalement sur toute ta démarche sportive jusqu'alors. Il y a des choses qui ont changé. Le jeu dans lequel tu reviens, il est un peu différent de celui que tu as quitté.
Ouais, clairement, c'est ce que je disais, c'est que la performance aujourd'hui n'est plus ma priorité. Je fais pas des compétitions pour les gagner, mais en tout cas pour donner le maximum de moi, de ce que j'ai au jour le jour. Et donc voilà, j'ai envie de refaire des compétitions, de me remotiver parce que ça me guide au quotidien d'avoir des échéances comme ça et puis de partir m'entraîner. J'ai des garçons qui grandissent aussi et je trouve que c'est bien de donner une bonne image aussi. Ils dirigent vers la compétition, notamment le plus grand. Donc
Comme c'est bizarre.
ouais, à lui, il est à fond triathlon et donc c'était important de donner une bonne image. Et après, j'ai quelques soucis physiques qui me permettent pas de m'exprimer pleinement ou en tout cas, voilà, comme je l'aimerais. Mais en tout
Problème aux
cas, bon,
ischios, c'est ça, hein?
ouais, voilà, j'ai des problèmes aux ischios qui durent depuis pas mal de temps et je pensais que ça allait être mis de côté, mais ça c'est revenu assez rapidement là, enfin les derniers temps. Mais voilà, c'est pas grave, je vis la course différemment, je désespère pas, et puis voilà, c'est cool.
Est-ce que tu as le sentiment d'avoir aujourd'hui trouvé le juste équilibre, d'être mieux armé si tu devais être confronté à des désillusions voilà, comme toi, tu as un peu changé de regard aussi, de position. Est-ce que tu es, aujourd'hui, tu as construit en tout cas un environnement qui te prémunit autant que ça puisse l'être du risque d'avoir des moments de moins bien?
Ouais, je pense qu'il faut simplement savoir ce qu'on veut. Se fixer des bons objectifs, ne pas demander trop des choses trop hautes, en tout cas ouais être rester raisonnable ou je sais pas si c'est rester raisonnable mais en tout cas ouais décider les choses et puis ouais,
Pas se mettre en surpression en tout cas.
ouais voilà pas se mettre en surpression et puis profiter ce que je disais j'ai le petit le troisième là qui a des difficultés ne serait-ce qu'à marcher à manger je me rappelle. J'ai un peu oublié quand ça allait pas, tu vois, mais au final, tu reviens à ces choses-là basiques et tout, et puis bah, tu prends le bonheur où il est, et puis après, tu fais la part des choses, et puis tu te rends compte qu'au final, on n'est pas si mal, quoi.
C'est beau à entendre.
Ouais.
Franchement, c'est touchant. Très heureux en tout cas de voir que tu as pu reprendre le dessus et avancer dans la bonne direction. David, on va parler de l'avenir. Là, tu es revenu il n'y a pas très longtemps. Tu as repris les championnats de France de cross voilà, en master. Tu as été aussi à Chianti, UTMB,
Ouais.
où tu as eu un peu les soucis dont tu nous as parlé tout à l'heure, là, notamment aux ischios. Mais en lisant le compte-rendu de ta course, on comprend que le plaisir a été là. Quels sont tes projets, toi, pour la suite de l'année? Je crois qu'il y a justement un projet avec ta femme et que c'est aussi, toi, une source d'accomplissement, de l'accompagner aussi dans sa pratique et sur ses projets à elle. Donc, de quoi va être fait, de ce que tu en sais, en tout cas, ton année 2024, de quoi tu as envie?
J'ai des objectifs cette année qui vont être assez importants en termes de distance. Je vais certainement être au départ au Lavaredo Ultra Trail en Italie, que je souhaitais faire déjà l'année dernière, mais bon, j'y avais pas été. Donc, j'y retourne, ou j'y vais en tout cas cette année pour découvrir cet endroit que j'aime beaucoup. Et ensuite, ça me mènera sur la Diag à la fin de l'année, sur le Grand Raid où j'ai été tiré au sort. Au mois d'octobre, je serai sur cette épreuve-là. Ma femme sera sur la Mascareigne, donc on sera tous les deux de la partie. Il va falloir gérer les enfants, mais voilà, je trouvais ça cool de boucler la boucle, d'y aller, de faire en tout cas une belle préparation jusqu'à là, et voilà. Et puis essayer de régler déjà ces problèmes un petit peu de physique, et puis ensuite. Voir comment l'été se passe, bien se préparer, et puis voilà, bah, faire les choses bien, intelligemment.
J'ai cru comprendre qu'à plus long terme, il y avait peut-être un projet dans un petit coin de ta tête, un projet plus de l'ordre familial, en tout cas un rêve plus à vélo. Pareil, l'idée serait de partager aussi
Ouais.
la découverte et puis la dimension sportive, mais avec les aides qui sont les plus chères autour de toi.
Ouais, c'est ce que j'aime vraiment, c'est partir, ce que je répète, d'aller un point A, un point B, d'être sur la route, de voir du pays et d'emmener les enfants. Alors à vélo, on voit plus de routes, mais ça peut être d'une manière différente, mais de bouger comme ça et de leur donner un peu l'envie de voir le monde. Et voilà, c'est des choses que j'aimerais beaucoup faire. On a des projets, ouais, 2, 3 ans, il faut attendre que le dernier garçon se stabilise un peu. mais ça serait un rêve qu'on a ensemble, en commun en tout cas, avec les enfants. Donc c'est passionnant et puis bah c'est cool.
David, dernière question de cet épisode. Il faut conclure avec le motto de la fin, une citation, une devise qui aurait un sens tout particulier pour toi.
Alors la citation, ça serait que tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. C'est une citation de Jean d'Ormesson. Je trouve que l'imprévu, l'inattendu, c'est une source de joie et de joie profonde, une joie authentique, et que ça enrichit notre expérience et laisser surprendre comme ça, c'est s'adapter au changement, face au changement, s'adapter. Donc c'est quelque chose que j'aime bien lire d'Ormesson et c'est quelque chose qui m'inspire.
Très belle citation, effectivement. Ouais. Et puis on sait l'humain capable de s'adapter. Tu en étais une parfaite illustration. Merci beaucoup, David. C'est malheureusement la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours sportif et notamment tes deux Diagonales des Fous et bien au-delà de ça, ton cheminement personnel. C'est vraiment essentiel et précieux d'avoir pu partager en tout cas ton retour d'expérience et puis que chacun puisse venir y piocher ce qui pourra l'aider, le guider pour composer au mieux face à des difficultés comme celles que tu as pu connaître. Merci donc de la confiance que tu m'as accordée. Tu es très rare en interview, donc je mesure le privilège que j'ai eu de pouvoir échanger avec toi. Donc merci beaucoup de t'être livré ainsi et puis d'être venu avec autant de sincérité et d'authenticité te présenter derrière le micro et pour le plus grand bonheur des auditeurs et puis évidemment le mien. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir, David. Tu as l'air sur d'excellents rails pour que tout se passe idéalement.
Merci Guillaume, plein de belles choses à toi et aux auditeurs et puis au plaisir de se croiser un jour.
Avec grand plaisir. Salut David.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.